L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et je le disais tout à l'heure, retour ce matin sur un avis qui a fait couler beaucoup d'encre, celui de la Commission nationale consultative des droits de l'homme au sujet des émeutes. Et pour y revenir ce matin, vous recevez le directeur de cabinet de la présidente de la province sud.
Bastien Van Den Dyck, directeur de cabinet de la province sud, spécialiste en géopolitique et en relations internationales. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur ce rapport publié jeudi par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un avis sur la gestion par l'État de la crise insurrectionnelle du 13 mai 2024. Il fait beaucoup de bruit, il suscite beaucoup de réactions. On va revenir sur son contenu, mais d'abord pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est que la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de qui est-elle composée et comment est-ce qu'elle a travaillé ?
Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir pour parler de ce sujet effectivement qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors que la CNCDH, c'est une commission donc consultative, comme son nom l'indique, qui a été créée après-guerre et qui est composée d'un certain nombre d'associations dont on ne peut pas dire qu'elles soient très hétérogènes. On a un certain nombre d'associations qui ont des positionnements idéologiques similaires, très à gauche, ce qui donne parfois l'impression, souvent l'impression d'ailleurs dans leur rapport, d'une forme d'entre-soi gauchiste hors sol dans leur production. C'est une commission qui est censée se poser sur l'action de l'État et pour en vérifier la légalité vis-à-vis des droits de l'homme. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que les productions de la CNCDH sont souvent décriées, effectivement pour une certaine forme d'homogénéité. On n'a par exemple pas d'élus, donc pas de représentants, donc on peut douter quand même de la légitimité démocratique de ces productions. Et puis, je tiens à le signaler, mais la Cour des comptes déjà en 2024 avait souligné le manque de rigueur, le manque de neutralité, le manque de pertinence de ces productions. Donc c'est une commission souvent décriée et qui va l'être encore avec le rapport qu'elle a rendu sur la Nouvelle-Calédonie.
Alors ce rapport, en fait, elle s'est auto-saisie alors que le Sénat coutumier avait essayé de la saisir, mais il n'avait pas le droit, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est dans l'introduction du rapport. Un certain nombre d'autorités sont en capacité de saisir la CNCDH. Là, la CNCDH a été alertée par le Sénat coutumier et elle indique dans son rapport que le Sénat coutumier n'est pas légitime, n'est pas pertinent pour la saisir, mais pour autant elle s'est saisie elle-même, et on le verra d'ailleurs dans la liste, et on l'a vu puisque la liste a beaucoup circulé, des personnes qui ont été interrogées par la CNCDH. Beaucoup de gens viennent du Sénat coutumier, beaucoup d'indépendantistes, donc encore une fois dès à présent, enfin dès le début, une prise de position idéologique très claire.
Alors dans la liste effectivement des personnes qui ont été auditionnées, il est signalé que un certain nombre ont été sollicités et n'ont pas répondu, c'est le cas notamment de Sonia Backès, la présidente de la province sud. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu rencontrer cette commission consultative ?
C'est tout à fait simple. Hein. La CNCDH produit des rapports idéologiques et Sonia Backès, comme Nicolas Metzdorf d'ailleurs, ont eu raison de ne pas vouloir être complices d'une telle chose. Donc ils ont décidé de ne pas répondre. Mais je crois que ce qui est important dans la démarche, à noter dans la démarche de la CNCDH et dans les gens qu'ils ont sollicités, donc on a vu 13 indépendantistes, dont deux de la CCAT, qui sont directement responsables des émeutes. Mais moi, ce que je souhaiterais identifier, c'est surtout les absents. Ils n'ont pas sollicité de soignants qui ont été touchés, ils n'ont pas sollicité de professeurs dont les écoles ont été brûlées, ils n'ont pas sollicité l'ACM, l'Association des citoyens mandoriens, qui représente les mandoriens qui ont longtemps été bloqués, ils n'ont pas sollicité le MEDEF, ils n'ont pas sollicité la CCI. Pourtant, dans les émeutes, on sait que les acteurs économiques ont été touchés au premier chef. Donc cette liste traduit bien l'angle idéologique de la CNCDH, et je crois que Sonia Backès et Nicolas Metzdorf ont bien fait de ne pas y répondre.
Alors pour en venir au fond de ce rapport, de cet avis, la Commission nationale consultative estime que la gestion de la crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie en mai 2024 a été, je cite, essentiellement répressive, et elle juge même que pendant cette crise, l'État n'a pas respecté plusieurs droits humains fondamentaux. Ce sont quand même des accusations très graves. Et quand on lit ce rapport, et c'est ce qui a fait susciter beaucoup de réactions, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir vécu les mêmes événements que ceux qui nous racontent, en fait.
Alors, je pense que ce n'est pas une impression. Je pense qu'on n'a pas vécu la même crise que ce qu'ils décrivent. Alors déjà, permettez-moi de saluer l'action des forces de l'ordre, parce que je pense que même si elle a pu être un petit peu tardive, on sait bien que sans leur intervention et sans l'intervention de la justice, qui, même si elle prend son temps, est vertueuse, on n'aurait pas rétabli l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas seulement ma position. Hein, le procureur Yves Dupas l'a dit récemment. Et effectivement, ça traduit encore une fois le positionnement de la CNCDH, c'est-à-dire un positionnement idéologique, taper sur l'État tout le temps, taper sur la police, sur la justice tout le temps, et finalement victimiser les coupables. Je pense qu'effectivement, on n'a pas vécu la même crise, et finalement, le rapport donne à voir une inversion totale des faits, où les policiers ou les services de la justice qui ont rétabli l'ordre sont les coupables et où les miliciens de la CCAT qui ont brûlé, qui ont pillé, qui ont tué notamment un gendarme, finalement sont victimisés comme des gens qui auraient subi la puissance arbitraire de l'État. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Ah, vous le disiez, de très vives critiques sur l'action des forces de l'ordre, sur la justice, et puis aussi une mise en cause de la province sud. Elle est accusée d'avoir pris des dispositions qui s'apparentent à des mesures de rétorsion collective. La province sud qui a répondu, elle s'inscrit bien sûr en faux contre ces accusations.
Mais bien évidemment, là aussi, permettez-moi de saluer le travail des agents de la province sud. Ils ont été à pied d'œuvre dès le début de la crise. Ils le sont encore aujourd'hui pour faciliter l'accès à l'emploi, pour aider pour les bourses, pour aider à la relance économique. Je pense que si la Nouvelle-Calédonie s'est pas effondrée en 2024, c'est parce que la province sud ne s'est pas effondrée en 2024. Et si la province sud ne s'est pas effondrée en 2024, c'est grâce au travail et à l'engagement de son administration, et c'est grâce au courage politique de Sonia Backès. La province sud, c'est 98% des dégâts, c'est des milliards de francs perdus. Et pour autant, c'est la première qui était à l'œuvre pour relancer avec Sud Pro, avec Sud Jeune, avec Sud Santé. C'est celle qui a organisé les navettes, c'est celle qui, malgré la perte de ces milliards, a maintenu les bourses, a maintenu les aides, a accompagné les entrepreneurs. Et c'est celle qui, demain, encore une fois, sous l'impulsion de Sonia Backès, sera la première institution pour la relance de la Nouvelle-Calédonie, avec Sud Sécurité ou avec Sud Relance, qui va aider la trésorerie des entreprises.
Alors, un rapport, on l'a vu, biaisé, très orienté. Il se conclut avec 6 recommandations. Et notamment celle de respecter pleinement l'intégrité du processus de décolonisation ou de prendre des mesures effectives visant à remédier aux discriminations systémiques et aux inégalités structurelles subies par les Kanaks. Là, on a l'impression que la Commission sort de son rôle, elle fait de la politique en fait.
Bien évidemment, la Commission fait de la politique et elle a oublié de nous dire que les Mondoriens ont été privés de leur droit fondamental de circulation, qui est un droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont oublié de nous dire que les hôpitaux ont été bloqués, que ça a généré des morts qu'on n'est toujours pas capable de compter. Pourtant, l'accès aux soins est un droit universel. Ils ont oublié de nous parler des lieux de culte et des lieux de réflexion, les temples, les églises qui ont été brûlées, qui est pourtant un droit universel, le droit de conscience, le droit de penser. Donc, ils ont oublié tout un tas de choses. Et donc, la conclusion que j'ai, moi, c'est qu'en fait, soit ces gens-là, vu les lacunes, sont incompétents, ils ne connaissent rien, finalement, à la défense des droits de l'homme, ou ils ne connaissent pas grand-chose à l'environnement de la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, soit ils sont malhonnêtes, parce que le parti pris de leur rapport est évident. Je pense malheureusement pour nous que la réalité est entre les deux. C'est un rapport qui est aussi malhonnête qu'indigne. Et je ne crois pas qu'il faille donner une grande postérité à ce rapport qui mérite en fait plutôt de caler une table chancelante qu'autre chose.
Mais en attendant, on le disait, hein, ça a fait du bruit. Il a été complaisamment relayé par plusieurs médias. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas une surprise. Mais comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce type de rapport? Quelles conséquences il peut avoir? Et est-ce que les partisans de la France ont les moyens de faire entendre une autre lecture?
Alors bien sûr, les partisans de la France ont les moyens de faire entendre une autre lecture. C'est ce que d'ailleurs on fait, encore une fois, sous la pulsion de Sonia Backès avec Naya Ouattéou et Marie-Laure Ukéoué à l'ONU, avec un grand nombre de réussites. Je crois que ce rapport arrive dans une période, dans une séquence qui arrive après la signature des accords Élysée-Oudinot, où le FLNKS tente de reprendre la main. On a vu que le président de l'UC a fait un certain nombre de séquences médiatiques. Ce rapport qui reprend le narratif finalement de la CCAT arrive aussi dans cette séquence médiatique-là. Donc il ne faut pas être naïf. C'est un coup médiatique qui est organisé par les défenseurs de l'indépendance, et il faut que l'ensemble des forces non-indépendantistes, mais également ceux qui ne considèrent que ce qui s'est passé le 13 mai est différent de ce qui est montré dans ce rapport, se mobilisent pour essayer de faire voir une Nouvelle-Calédonie différente, une Nouvelle-Calédonie qui souhaite s'en sortir. C'est le chemin qui a été identifié par l'ensemble des partis politiques qui étaient présents très récemment en métropole pour pouvoir nous donner une voie de sortie avec l'accord Élysée-Oudinot qui complète et qui éclaire l'accord de Bougival. Et ça pose aussi la question, à un moment donné, des relais aussi que les partisans de la France peuvent avoir dans un certain nombre de médias, notamment nationaux.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il manque peut-être un peu de lobbying comme on dit aujourd'hui, en métropole, pour faire valoir un peu la cause des partisans de la France qui ont l'air d'être relativement peu entendus finalement dans les médias, les rapports, les différentes conférences qui sont organisées?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, une réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, les leaders d'opinion, ceux qui sont présents dans les universités, dans les radios, et notamment dans le service public, d'ailleurs, il y a une commission d'enquête à ce sujet, sont très très marqué idéologiquement, donc déjà marqué idéologiquement contre les partisans de la France. Donc on part avec un certain retard, mais ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas nous décourager à nous organiser, à utiliser l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition pour contrer ce narratif mensonger des indépendantistes radicaux et développer notre position, notre point de vue, et c'est ce que certains courageusement s'attellent à faire, Sonia Backès, Nicolas Metzdorf aussi à l'Assemblée nationale.
Mais ce rapport, quelles sont ses conséquences réelles? Il n'en a pas vraiment, c'est une commission consultative. Quelles conséquences il peut avoir?
Ça sera un des éléments sur lesquels rebondiront à l'envi les indépendantistes en disant qu'il a une valeur et qu'il faut écouter ce qui est écrit dedans. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que la postérité de ce rapport, c'est de trouver une table chancelante pour qu'il la cale. Je ne pense pas qu'il faille faire beaucoup plus sur ce rapport. En revanche, c'est une alerte, comme vous le signalez. Et cette alerte-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut aussi s'organiser pour, à un moment donné, être en capacité, dans les médias, dans les cercles universitaires et d'un point de vue politique, plus largement sociétal, être en capacité de faire porter nos arguments, faire porter notre narratif et défendre le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France et les valeurs qui vont avec.
Bastien Van Den Dyck, merci d'accepter notre invitation.
Merci, Elisabeth.
Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, le www.rrb.nc.